ville de David qui s'appelle Bethléem en Judée, parce qu'il était de la famille et de la descendance de David pour se faire recenser avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva. Elle accoucha de son fils premier-né, elle l'emmaillota, le déposa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôte. Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs et montaient la garde pendant la nuit auprès de leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présenta devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppa de lumière et ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit « Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un Sauveur qui est le Christ Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Tout à coup, il y eut avec l'ange l'armée céleste en masse qui chantait les louanges de Dieu et chantait « Gloire à Dieu, au plus haut des cieux et sur la terre, paix pour les hommes, ses bien-aimés. » Or, quand les anges eurent quitté pour le ciel, les bergers se dirent entre eux « Allons donc jusqu'à Bethléem, voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent, et ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la mangeoire. Et après avoir vu, ils firent connaître ce qui avait été dit au sujet de cet enfant, et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle retenait tous ces événements, elle les méditait dans son cœur, et puis les bergers s'en retournèrent, chantant la gloire et les louanges de Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, en accord avec ce qui leur avait été annoncé. Et 8 jours plus tard, quand vint le moment de circoncire l'enfant, on l'appela du nom de Jésus, comme l'ange l'avait appelé avant sa conception. Voilà, et puis un autre texte très court dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13, des versets 31 et 32. Ça correspond un petit peu aux préoccupations des enfants pendant leur catéchisme. Jésus leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un grain de sénevé qu'un homme prend et sème dans son champ. C'est bien la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est la plus grande des plantes potagères, elle devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent faire leur nid dans ses branches. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous, Seigneur, par ta vérité. Amen. Voilà, sachez les enfants qu'on se préoccupe de notre avenir à tous et au vôtre en particulier, et que les églises se réfléchissent en ce moment sur ce qu'il faut faire avec la création. Vous savez, la création est fragile, on parle de pollution, de réchauffement, etc. Alors je vais vous raconter une histoire qui est une histoire vraie, et après je passerai à notre récit biblique. Il y a un très grand lac qui est le plus grand lac de montagne, qui fait à peu près un quart de la superficie de la France, qui se trouve pas loin de 4000 mètres d'altitude dans la montagne. Vous voyez, ça fait haut, hein. Et qui se trouve au milieu de l'Amérique latine, d'Amérique du Sud, dans les Andes. C'est le lac Titicaca. Un drôle de nom. Hein, mais ce lac est très très connu, parce que les Indiens qui sont autour de ce lac ont une particularité, c'est qu'ils cultivent les pommes de terre. Les pommes de terre que vous mangez, les chips, les purées, tout ça, ça vient de là-bas. Leur pays d'origine, c'est ce coin des Andes, de cette montagne de l'Amérique du Sud. Voyez. Alors, ils cultivent ça dans leur montagne, et ils cultivent ça aussi sur des grandes îles qu'ils fabriquent sur le lac, avec les joncs du lac. Ils fabriquent des grands radeaux sur lesquels ils construisent leur maison. Ils mettent de la terre sur le radeau, carrément. Et ils partent à la dérive sur le lac, comme ça, et ils cultivent la terre du radeau. Voyez, pourquoi je vous raconte ça? Ben, parce que ces hommes qui sont là depuis des siècles et des siècles, ils connaissent leur terre de manière fantastique, formidable. Et ils sont même capables de la mettre sur des radeaux et pour pouvoir la cultiver comme cela en partant à la dérive sur le lac. Voilà. Et puis, ils la cultivent aussi sur les montagnes, évidemment. Ils cultivent aussi quelque chose que vous connaissez de plus en plus, qui est le quinoa. Voilà. Vous avez peut-être mangé, vous aimez peut-être ça, je ne sais pas. Mais ça vient de là-bas, tout ça. Et puis, un jour, Il y a, venant d'Amérique du Nord, des techniciens. Ils savaient tout, ces agronomes, ils savaient tout. Ils savaient tout, ils savaient comment il fallait faire, il n'y a pas de problème. Ils sont arrivés, ils ont dit aux paysans là-bas, aux Indiens, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ci qu'il faut faire. Allez-y, faites, voilà, on est des ingénieurs, on sait. Alors les Indiens, ils ont fait comme ci, comme ça, comme les ingénieurs avaient demandé, et la production s'est effondrée. Voilà. Parce que ces hommes qui venaient avec tout leur savoir, hein, qu'ils avaient appris, je ne sais pas très bien où, dans les universités ou choses comme ça, ils ne connaissaient pas vraiment la terre. Vous voyez, ils ne savaient pas comment faire. Ils ne savaient pas reconnaître la terre. Vous savez, un paysan, quand il est dans un champ, souvent, il prend la terre dans ses mains, il la regarde. Voyez, hein. Et il est capable de dire, ben là, on peut faire ceci, on peut faire cela, mais voilà, hein, ça s'apprend pas comme ça tout à fait à l'école, hein, encore qu'on apprend beaucoup de choses à l'école, mais il faut vraiment être sur le terrain. Vous voyez, le paysan, il a avec sa terre un contact très, très, très particulier. Vous voyez, hein, il la connaît bien, il va souvent dans le champ, hein, il va sarcler le champ, c'est-à-dire retirer les mauvaises herbes, les racines, des choses comme ça. Il va amener ce qu'il faut pour enrichir la terre, et ainsi de suite. Voilà, hein, et puis il plante, il a la patience d'attendre que ça pousse, etc. Vous voyez, il y a toute une relation entre le paysan et son champ. Voilà. Pourquoi je vous ai raconté cette histoire? Parce que dans la parabole que Jésus raconte, il dit un homme qui a un champ, je veux dire, hein, et dans lequel il plante une petite graine. Hein. Cet homme, dans la parabole, il représente, c'est une image de Dieu. Et le champ, c'est une image de nous, de notre assemblée. Et ce qui est dit, c'est que cet homme, il va mettre une petite graine, plusieurs petites graines, on peut penser, hein, dans son champ. Mais il ne fait pas n'importe quoi. Et il met pas n'importe quelle graine. Il la met pas n'importe où. Et il la laisse pas comme ça. Il doit en prendre soin, très vraisemblablement. De temps en temps, il doit venir voir un petit peu comment ça se passe. Il doit avoir la patience. Dieu a la patience pour nous. Et Dieu a mis en nous quelque chose de lui-même. Quelque chose qui est sa parole. Et trois fois rien. Et quelquefois, avec vraiment trois fois rien, on peut faire quelque chose de formidable. Et je pensais en écrivant, je l'ai écrit le texte, en écrivant ce texte, je pensais à un noyau de cerise. Vous avez mangé des cerises? Ouais, c'est petit, hein, un noyau de cerise. D'abord, vous les mettez aux oreilles, les cerises, vous savez, non? Quand il y en a deux, hein, si vous faites partie, hein, voilà, fait comme des boucles d'oreilles. Mais les parents aussi le font, hein, parfois. Puis s'ils ne le font plus, ils ont tort parce que c'est quand même sympathique. Mais alors, quand vous avez un noyau de cerise là dans la main, vous voyez, c'est minuscule. Hein? Si vous arrivez à le faire pousser, si vous le plantez, faites pousser, ça fait un arbre assez génial. Tout d'abord, ça c'est grand, ça peut devenir très grand, un cerisier. Hein? Puis d'abord, au printemps, c'est joli. Hein? D'abord, c'est tout fleuri. Hein? C'est dans les tons rose, blanc, etc. Hein? Hein, c'est assez sympa, puis ça annonce le printemps. On sait quand les cerisiers sont en fleurs, hein, c'est que les beaux jours sont là, les vacances sont pas loin aussi. Voilà. Puis après, il y a les cerises, la production qui est là. Mais si vous êtes gourmand, si vous voulez manger les cerises, il faut faire attention parce que tous les oiseaux du ciel y viennent. Hein. Alors, dès que c'est mûr, vous allez avoir les merles, les corbeaux, les mésanges, hein, les pigeons, tout ça vient manger les cerises. Hein. Il y a vraiment tous les oiseaux du ciel qui viennent, tous, 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 sans distinction. Voilà. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. Vous voyez, d'un côté, on a à la fois le champ dans lequel il y a en nous cette parole de Dieu qui est posée pour que ça devienne quelque chose de formidable. Hein. Et en même temps, nous sommes les oiseaux. Vous voyez, on est à la fois ceux qui profitent de la graine qui a été ensemencée en eux et ceux qui profitent de la production de cette graine et qui la portons aussi un petit peu. Et tous les oiseaux peuvent venir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exception. On peut venir de pays lointains, on peut venir d'à côté, on peut être jeune, on peut être moins jeune, on peut être grand, on peut être petit, peu importe. On est tous invités à venir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'exception, véritablement. Et puis on vient, dit la parabole, on vient pour y faire notre nid. Les oiseaux viennent faire leur nid. C'est-à-dire ils en font, hein, leur protection. Ils en font leur maison, un endroit où ils sont bien. Vous voyez, dans cet arbre. Voilà. Eh bien, c'est ce à quoi nous sommes appelés. Vous voyez que on soit au catéchisme, à l'école biblique ou au club biblique, qu'on soit, je ne sais pas, un peu plus âgé, je ne vais pas donner d'âge, hein. qu'on soit pasteur, par exemple, aussi, voilà. Eh bien, on aime bien entendre une parole qui nous fait chaud au cœur, hein, et qui nous donne le sentiment qu'on n'est jamais seul, voilà, qu'on est un petit peu protégé, comme si on était un oiseau dans un nid, tout simplement. Et ça, Jésus raconte cette parabole, parce qu'il dit ça, vous voyez, c'est un petit peu comme le royaume que je vous promets, dont je parle. Voilà. Et c'est le royaume auquel nous sommes invités à vivre, tout bêtement. Voilà. Donc il faut se dire que nous sommes tous, absolument tous, invités pour vivre dans ce royaume. Et tout à l'heure, au moins à la Sainte-Seine, on sera tous invités. Vous allez voir comment ça se passe, vous allez être surpris. Hein? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour la prédication.